Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dieunor Excellent, maire de Villetaneuse, auteur du livre « Quelle France en héritage ?» Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Barrière. Merci pour votre invitation.
Et bonne année à vous, ainsi qu'à tous les habitants de Villetaneuse.
Tout à fait, merci. Moi aussi, je souhaite une belle et heureuse année à tous les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens, et à la France entière, et à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer, des chats avec qui j'ai pu échanger l'année dernière.
Alors, Dieunor Excellent, dans cet ouvrage, vous revenez sur votre parcours, celui d'un enfant né à Haïti, arrivé très jeune en Guyane, et qui s'installe en 1996 à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Vous étiez muni d'une carte de séjour avant d'être élu au premier tour maire de la ville le 15 mars 2020. C'est tout un parcours que vous racontez, mais vous évoquez aussi le climat politique, la stigmatisation des quartiers populaires et l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi ce livre à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle ?
Alors, ce livre à 4 mois est important pour moi parce que c'est aussi l'accomplissement d'un parcours. Oui, j'ai été élu dès le premier tour en mars 2020 dans un contexte sanitaire très difficile. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir un petit peu, me ressourcer en Guyane, comme je dis, qui est la Guyane française, c'est ma deuxième première carte d'adoption, parce que, comme vous l'avez dit, moi j'ai quitté Haïti à l'âge de 4 ans, je suis arrivé en Guyane française, et puis je suis atterri à Villetaneuse à mes 18 ans, donc c'est important pour moi de me ressourcer. En repartant un petit peu là-bas, je me suis rendu compte que oui, j'avais un parcours, j'avais parcouru beaucoup de choses, hein, beaucoup de rencontres, beaucoup de d'actions, beaucoup de projets, et que j'ai pu aboutir à un projet qui m'était cher, celui d'être en responsabilité à Villetaneuse. Villetaneuse qui est ma deuxième ville d'adoption, comme je le disais, donc c'était important pour moi de me poser et d'écrire un petit peu mon parcours, en tout cas ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu concevoir, ce que j'ai pu construire, politiquement aussi, associativement, et puis personnellement. Donc c'était le moment où il fallait que je me pose et que j'écrive un petit peu toutes ces choses à travers ce manifeste. Et ce qui a encouragé, en tout cas, cette démarche d'écriture, ben c'est le climat nauséabond de la montée de l'extrême droite, notamment à travers la surexposition médiatique de Monsieur Zemmour. Je parle de Zemmour et sa bande, parce que c'est tout un courant idéologique, politique, réactionnaire qui a surgi là comme ça, et du coup j'avais été saisi par cela, et je me suis dit bon, ma réaction en tout cas c'était d'écrire, c'était de me poser, d'exprimer ce que je suis, ce que je pense et ce que je propose pour ma France.
Et dire qui l'on est, d'où l'on vient, c'est une façon de dire aussi aux Français que la France est plurielle, qu'on peut être un bon Français en ayant un prénom qui ne figure pas dans le calendrier.
Oui, tout à fait, exactement. Et puis moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais et de bons Français. Nous sommes des êtres humains qui vivons un endroit, qui partageons des valeurs, qui vivons aussi des réalités qui sont pas les mêmes en fonction du territoire dans lequel on évolue. La France, elle est plurielle, en effet. Elle est plurielle aussi par sa diversité culturelle, gastronomique, comme on apprécie beaucoup toute cette richesse gastronomique, mais elle est aussi plurielle parce que on vit pas les mêmes... les inégalités territoriales existent bel et bien. Les différences de parcours, les héritages, hein. Je parle d'héritage parce qu'on n'hérite pas du même milieu social, donc on n'hérite pas du même parcours, on n'est pas, voilà, certains héritent de conditions économiques favorables et d'autres de conditions économiques défavorables, et c'est une réalité. Donc c'est ça aussi la France. Donc le bon ou le mauvais français, c'est un concept que pour moi qui devait même pas, en tout cas le sujet devrait pas se poser ainsi.
Alors le sujet ne devrait pas se poser ainsi, et pourtant Éric Zemmour divise d'une certaine manière en parlant de ce que devrait être un bon Français, puisque par exemple il estime que l'islam n'est pas compatible avec la République.
Oui, mais je pense que c'est Monsieur Zemmour et sa bande qui n'est pas compatible avec la République finalement, et on le voit. Moi, je vous dis, il y a des spécificités par rapport à des territoires. Vous savez, quand vous habitez un territoire où, quand vous avez 30%, oui, de personnes issues d'origine étrangère, oui, c'est pas la même réalité culturelle, sociale. Après, aujourd'hui, la réalité est que la pratique, oui, de l'islam, elle est plus représentée dans certains quartiers parce que il y a une surpopulation de personnes pratiquant l'islam, tout simplement. Donc, si on met le curseur sur un quartier par rapport à une pratique religieuse, moi, je pense que c'est regarder la chose de manière détournée et d'avoir c'est plus un prétexte pour diviser que de donner des chiffres réels et d'un problème d'identité que je ne constate pas, moi, en tout cas, moi, de Viltaneuse, je ne vois pas la pratique de l'islam comme un danger pour la République et pour la France, pas du tout, loin de là.
Dieunor Excellent, dans ce livre, vous dites qu'il faut arrêter de ternir l'image des quartiers populaires. Vous regrettez qu'on ne parle de ces quartiers qu'à l'occasion de faits divers. Quand ces quartiers sont accusés de séparatisme, vous parlez d'un séparatisme social, un séparatisme social qui est peu évoqué dans le discours politique.
Ah ben oui, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui la réalité fait que à Viltaneuse ou en Seine-Saint-Denis, on le sait très bien que les niveaux de revenus sont inférieurs qu'à la moyenne nationale et que surtout ce sont des quartiers où les taux de population en difficulté est supérieur au reste de la France. Donc forcément les inégalités territoriales sont là et ce séparatisme, moi je le constate au quotidien et c'est la raison pour laquelle à travers les politiques qu'on souhaite mener, notamment sur la diversification de l'habitat, c'est de faire en sorte aussi que les personnes qui s'en sortent mieux puissent rester dans nos quartiers. Et souvent, les personnes qui me disent vouloir quitter Viltaneuse ou vouloir quitter la Seine-Saint-Denis, c'est pas pour des problèmes de séparatisme religieux, c'est parce que ces personnes aspire à vivre mieux en termes d'équipement culturel, d'équipement public, de cadre, de qualité de vie. Et par stratégie d'évitement, ces personnes vont habiter, oui, dans les quartiers les mieux dotés sur tous ces besoins. Donc après, oui, nos quartiers ont besoin de plus de services publics. Comme je dis, on a besoin de plus de moyens d'investissement de l'État pour porter des équipements qui soient à la hauteur. Une école de meilleure qualité, bien sûr. L'enseignement, souvent le choix du lieu de vie par rapport à la qualité de l'enseignement qui est apporté peut orienter des parents à rester ou à partir. Et des fois même, il y a des parents qui ont les moyens, ils habitent dans une ville avec des difficultés socio-économiques, ils ont les moyens d'inscrire leur gamin dans un autre établissement, sur un autre département ou dans une autre ville. Donc il y a une réalité vraiment de séparatisme social qui se construit dans nos quartiers d'année en année.
Dieunor Excellent, dans votre ville de Viltaneuse, le logement social représente 65% des logements au total. Vous avez donc fait le choix d'impulser une politique d'accès à la propriété. C'est pour obtenir une plus grande diversité sociale ?
Oui, en effet, c'est important. Les chiffres là encore nous parlent. Quand vous voyez que le nombre de logements de type T5 ou plus par qui est quand même plus orienté pour les familles nombreuses, aujourd'hui une famille nombreuse sur deux, en tout cas à Viltaneuse, et a moins de chances d'avoir un logement de la bonne taille qu'un habitant qui habiterait en France métropolitaine. On est sur des taux de 0,40 à 3,80 pour la France métropolitaine. Donc aujourd'hui, oui, si nous voulons permettre qu'il y ait une vraie mixité sociale, il faut le dire, la mixité sociale, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas que des personnes qui sont en grande difficulté socio-économique qui habitent nos territoires. Oui, c'est de permettre d'avoir des logements aussi de qualité, des logements en accession à la propriété, l'accession libre, parce que c'est aussi une démarche pas purement économique ou fiscale. Mais aujourd'hui, oui, on ne peut pas concevoir une répartition des difficultés en ayant du 65%, voire plus, de logements sociaux à l'échelle d'une ville, et qu'on constate que les villes justement voisines en ont moins, voire 10%. Moi, je compare des fois Viltaneuse à la ville d'Enghien ou à la ville de Deuil-la-Barre, qui sont pas très loin. On est sur des taux de 8 à 10% de logements sociaux, alors que nous, on est à 65%. Donc, plus de difficultés socio-économiques à gérer, avec moins de recettes fiscales. Donc, vous voyez, de facto, on se retrouve en difficulté.
Donc, il faudrait revoir cette loi SRU pour contraindre véritablement les villes riches à construire du logement social, puisque visiblement, payer une amende, finalement, c'est pratique, ça empêche de respecter la loi.
Tout à fait, ça empêche de respecter les, c'est très pratique et ces villes l'assument pleinement. Donc maintenant, oui, c'est la raison pour laquelle nous devons avoir des politiques plus coercitives qui obligeraient justement ces communes à jouer le jeu de la de l'égalité territoriale, mais en travaillant surtout sur cette répartition des logements sociaux à l'échelle du pays, pas à l'échelle d'un territoire ou d'une ville qui porterait plus cet effort de pouvoir accueillir des populations en grande difficulté. Et quand je dis ça, je ne suis pas contre le fait d'aider les personnes qui soient moins dotées en capital économique. C'est une réalité parce que quand nous sommes dans la gestion aussi d'une collectivité, nous nous rendons compte de ces difficultés que nous rencontrons en tant que maire, en tant qu'élu, parce que les difficultés sociales sont trop importantes et on n'y arrive pas.
Dieunor, excellent, dans votre livre « Quelle France en héritage », vous ne cachez pas votre déception vis-à-vis de votre famille politique, la gauche, vous êtes un homme de gauche, et vous le dites, pour l'instant, vous ne savez pas à qui vous donnerez votre parrainage en tant que maire. Pourquoi cette déception à 4 mois de l'élection présidentielle ?
Mais cette déception, oui, je ressens. Pourquoi ? Parce que, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, la gauche, le vrai sujet, c'est qu'il y a un vrai problème de leadership. Les idées de gauche sont bel et bien là. Nous avons besoin, depuis tout à l'heure, je vous parle de solidarité, d'égalité, on en parlait aussi de laïcité. Aujourd'hui, il y a un besoin de gauche. Le besoin de gauche est là, sauf que nous n'avons pas ces hommes et ces femmes qui sont en capacité de se rassembler pour porter un projet qui nous permettront de répondre à ces exigences, comme je le dis, cette exigence sociale qui est là et qui nous pond aux yeux. Aujourd'hui, c'est le problème du leadership à gauche. Et aujourd'hui, oui, moi, en tant que maire, quelqu'un qui est idéologiquement, sociologiquement, politiquement à gauche, je ne sais pas à qui je donnerai mon parrainage, et j'espère que d'ici le début de l'année, il y aura quand même quelque chose de plus clair, qui donnera un peu plus d'espoir, toujours dans cette démarche de rassemblement, pour pouvoir soutenir un candidat et voire même participer à une campagne électorale, parce que il faut aller convaincre aussi nos habitants d'aller voter. Vous savez, l'abstention, c'est un vrai fléau dans nos villes, dans nos quartiers. Donc si avec tout l'engagement politique que je porte, je suis pas convaincu, comment je pourrais aller convaincre les personnes qui sont encore très éloignées de la chose publique, de la politique, aller voter. Donc aujourd'hui, oui, il y a cette déception, mais je garde cet espoir, comme je dis, que cette gauche pourrait se rassembler, parce que c'est une gauche qui a porté beaucoup d'avancées sociales, c'est une gauche qui est utile, qui est nécessaire et dont on a besoin pour construire toutes ces politiques d'égalité, de plus de liberté, de solidarité et de la vraie laïcité.
Vous parlez de manque de leadership. C'est vrai qu'il y a actuellement 7 candidats de gauche, plus Christiane Taubira qui envisage de se présenter éventuellement à la mi-janvier. J'ai entendu Sandrine Rousseau dire que les programmes des candidats ressemblaient un peu à des devis qu'on propose avant de faire des travaux. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un souffle, un récit à la campagne électorale actuelle ?
Mais en effet, d'autant plus qu'en face, on n'a pas d'autre récit, si ce n'est que le résultat qui serait par défaut, l'élection par défaut du président actuel. Je disais la droite qui revient quand même à grands pas avec la candidature de Madame Pécresse, et l'extrême droite qui est en embuscade. Donc aujourd'hui, oui, nous n'avons pas ce récit, et je pense, mais vraiment en toute honnêteté, que nous avons, en tout cas, les personnes qui pourraient écrire ensemble ce récit. Et je ne crois pas non plus à l'homme ou à la femme providentielle, mais aujourd'hui, nous n'aurons pas le choix. Il va falloir que cette candidature de rassemblement d'une gauche, on peut dire, allez, la gauche plurielle, cette gauche qui pourra produire un projet politique qui répondra à toutes ces exigences que je porte et que nos quartiers, que la France même porte, pourra, oui, aujourd'hui, proposer cette offre politique qui pourrait être crédible. Après, qui pourra porter ce projet ? Moi, je pense que la démarche de la primaire citoyenne reste encore une porte qui pourrait permettre d'aller vers cette candidature unique qui rassemblera en tout cas le plus grand nombre de candidats de gauche.
Après votre élection, Dionor Excellent, vous avez été victime d'attaques qui vous ont blessé. Le maire de Trappes, Ali Rabé, a lui aussi fait l'objet d'attaques très graves. Vous avez le sentiment que quand on est un élu issu de la diversité, il faut sans cesse prouver qu'on est un vrai républicain ?
Oui, malheureusement, mais bon, comme moi aujourd'hui je n'ai plus rien à prouver, il est vrai que dès mon arrivée aux responsabilités, il y a eu ce procès en illégitimité, alors que j'ai gagné au suffrage universel, et j'ai quand même eu un recours au tribunal administratif, puis ça a été jusqu'au Conseil d'État, mais alors que j'avais gagné avec une belle longueur d'avance, alors que depuis des années je m'implique sur le terrain. Malheureusement, c'est encore le cas, et c'est la raison pour laquelle il est important aussi, je veux dire, notre République a tout intérêt à valoriser aussi des parcours différents, des personnes qui viennent de d'autres horizons, mais qui sont français comme tous les autres Français, parce qu'ils partagent les valeurs de la République, parce qu'ils portent aussi une mission aussi de service public, et ils portent aussi cette dynamique de faire évoluer les mentalités. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, mais bon, vous savez, depuis 18 mois que je suis installé dans mes fonctions, je regarde plus ces détails finalement. Et bon, s'il y a des attaques, je porte plainte parce que je pense qu'on a aussi un arsenal juridique qui nous protège, heureusement. Mais aujourd'hui, oui, je regarde plus, en fait, j'écoute plus, je regarde plus ces attitudes, j'écoute plus ces propos, parce que je pense que j'ai une mission qui est importante, c'est donner du sens aussi à la chose publique, et je regarde à cela aujourd'hui. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne envie de m'impliquer tous les jours, d'aller porter des décisions ambitieuses, courageuses, pour faire évoluer ma ville, pour faire évoluer mon territoire et pour faire évoluer mon pays.
Dernière question, Dionor Excellent, vous parlez de vos deux enfants qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle et qui se posent beaucoup de questions sur la montée de l'extrême droite. C'est aussi pour la génération de vos enfants que vous êtes aujourd'hui impliqué dans la vie politique ?
Oui, tout à fait, ça c'est important, parce que vous savez, quand on est maire, on parle politique au quotidien à la maison, et les enfants bien sûr sont très attentifs au débat public. Moi, les miens voteront pour la première fois, et c'est vrai que j'ai une responsabilité déjà vis-à-vis d'eux, de leur expliquer les différents choix qu'ils peuvent être amenés à faire, et leur expliquer pourquoi Zemmour et sa bande, hein, comme je le dis, sont un danger pour la République, sont un danger pour la cohésion nationale, sont un danger pour les valeurs qu'on défend, et ça doit leur donner envie de s'engager, de s'impliquer, parce que il va falloir faire un choix qui nous permettra d'avoir une société plus égalitaire, plus juste, une société qui soit plus solidaire pour correspondre aux valeurs qu'on défend au quotidien. Et ils nous voient aussi, nos enfants, sur le terrain, ils nous voient agir, ils nous voient porter des politiques publiques qui améliorent le cadre de vie des habitants. Donc oui, on a une responsabilité vis-à-vis de cette génération qui votera en tout cas en 2022.
Merci Dionor Excellent. Je rappelle que vous êtes maire de Villetaneuse. Je rappelle le titre de votre manifeste, Quelle France en héritage, et une nouvelle fois tous mes voeux pour 2022. Bonne année aussi aux auditeurs de Radio Orient. Merci.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.